L'atelier des médias.
C'est encore le printemps dans nos contrées tempérées. Le printemps, pour l'atelier des médias, est un moment d'exploration des initiatives, des innovations, des créations dans l'univers de la presse et de l'Internet. Après avoir jeté un coup de projecteur sur des projets web, sur des projets vidéo, sur de l'édition, il y a quelques semaines, nous poursuivons notre chemin avec des projets papier. D'ici une vingtaine de minutes, Mathias Virelli nous emmène dans le 9e arrondissement de Paris pour découvrir le 1, une publication hebdomadaire qui vient de diffuser son 100e numéro. Nous n'en avons jamais parlé dans l'atelier des médias du 1, un manque que nous comblons aujourd'hui. Avant cela, Manon et Mathias nous font découvrir deux autres publications nées tout récemment et qui ont fait, malgré le 21e siècle, malgré le numérique, malgré l'Internet, qui ont fait le pari de la cellulose pour support. Je suis Yann Malouf, vous écoutez l'atelier des médias, une émission, un projet porté par Simon Decreuse aux manettes, Camille Deloche en coulisses, Mathias Virelli que vous entendrez dans une dizaine de minutes, et Manon Mella qui me prend le micro des mains. Salut Manon.
Salut Ziad. T'aurais pas oublié quelque chose ?
Non, je crois pas.
Aujourd'hui dans l'émission, on parle du printemps des médias, et le printemps des médias, c'est un concept que nous partageons avec une équipe qui organise bientôt un événement à Paris sur ce thème.
Effectivement, j'allais oublier, je vous donnerai des informations et des détails sur cet événement parisien qui a lieu la semaine prochaine dans le générique de fin. C'est une manière pour moi de vous garder jusqu'à la fin de l'émission.
L'atelier des médias.
RFI.
Ziad Malouf, Simon Decreuse.
Et vous.
Lorsqu'on regarde, lit ou écoute un journal traditionnel, les révélations, les scoops font souvent l'effet d'une bombe. Elles arrivent d'un coup, leur récit va à l'essentiel, l'information se concentre sur le fait révélé et la priorité n'est pas le détail. Le mois dernier, j'ai découvert une toute nouvelle revue. À l'intérieur, j'ai pu lire des révélations inédites racontées sur une dizaine de pages avec des détails d'une telle précision qu'ils donnent à l'article un air de reconstitution historique. Dans cette revue, j'ai aussi frissonné devant une nouvelle. Cette fois, ce n'était pas une nouvelle médiatique, mais une nouvelle littéraire. Elle est écrite par Franck Tillier et raconte l'histoire d'un Jérémy Lepage qui s'apprête à commettre le meurtre parfait. Cette toute nouvelle revue s'appelle « Sang froid », en référence au livre de Truman Capote, « De sang froid ». Sur la première de couverture est dessiné un avocat à qui l'on tend une liasse de billets. En tête, il est écrit « Justice, investigation, polar ». Pour en savoir plus, j'ai rencontré l'un des cofondateurs qui nous raconte l'histoire et l'ambition de cette revue.
http://atelier.rfi.fr.
Bonjour, Stéphane Damien Tissot, je suis le cofondateur et rédacteur en chef de la revue Sang Froid. Alors Sang Froid, c'est une revue trimestrielle, donc vendue en librairie, relais et grande surface culturelle, qui a pour ambition de mêler en fait donc des faits réels sur la justice et l'investigation, et une partie beaucoup plus fictionnelle avec toute une partie consacrée au polar. C'est une revue donc qui est toute jeune et son histoire donc est assez simple. Elle vient d'une rencontre, donc de ma rencontre avec Yannick Dehaye, donc qui est le directeur général des éditions Nouveau Monde. En fait, on avait tous les deux une envie de créer une revue. Moi, j'étais journaliste judiciaire dans un mensuel à Lyon qui s'appelle Mac de Lyon, qui est un mensuel d'information générale où je m'occupais de la rubrique justice. Et j'étais déjà donc forcément dans un ton long, dans un temps d'analyse avec un petit peu de place pour pouvoir écrire. Mais c'est vrai que je me sentais un petit peu à l'étroit dans cette rubrique justice parce que voilà, la justice, c'est souvent des affaires complexes, des affaires longues où il faut beaucoup de détails finalement pour pouvoir rentrer au fond des choses. Et on n'a pas forcément toujours la place qu'on souhaite pour pouvoir justement faire notre travail de la manière la plus simple et la plus sympathique possible. Et on a eu un séminaire d'entreprise quand j'étais à Mac de Lyon avec Laurent Beccaria, donc le cofondateur de la revue 21, qui nous a parlé de cette revue que je connaissais forcément en tant que lecteur, mais avoir cette vision, l'entendre parler de ce temps long, de cette place qu'il avait, ça a éveillé en moi une curiosité et je me suis dit tiens, pourquoi pas créer une revue sur la justice et le polar, parce que je trouvais que les deux thématiques c'était connexe, mais je pense qu'on y reviendra. Et donc j'ai rencontré Yannick Dehaye, qui était donc le directeur et qui est toujours le directeur des éditions Nouveau Monde, qui avait, lui, l'ambition de créer une revue sur l'investigation. Donc on s'est dit, bah tiens, pourquoi pas mêler nos deux idées ? Il y a des vraies connexions entre nos deux projets. Et ça fait environ une année qu'on bosse sur ce premier numéro.
De quoi parle Sang-Froid ? Quel contenu on peut trouver dans cette revue qui est un MOOC, en fait, c'est-à-dire la contraction de magazine et de book, qui veut dire livre ?
Voilà, c'est exactement ça. C'est une revue qui s'inscrit donc dans ce phénomène des MOOC qui est en plein essor depuis les années 2008. Donc c'est une revue qui, dans la première partie, traite donc de justice et d'investigation. Donc comme je le disais tout à l'heure, on est dans des faits réels avec des enquêtes, des reportages, des portraits, un dossier là par exemple sur les avocats qui franchissent la ligne jaune. Donc voilà, c'est vraiment des thématiques.
C'est-à-dire qu'ils franchissent la ligne jaune.
En fait, bah on s'est attardé sur ces problématiques des avocats qui se retrouvent sur le banc des accusés en compagnie de leurs clients. On a remarqué, en fait, c'est parti d'un constat. On a remarqué que depuis un an et demi, il y a de plus en plus d'affaires où on voit des avocats rejoindre finalement le banc des accusés, comme j'expliquais, et on s'est demandé un petit peu pourquoi. Et on s'est dit, bah tiens, c'est bizarre, est-ce qu'il y a une recrudescence de fautes chez les avocats ? Est-ce qu'il y a une volonté peut-être des parquets nationaux de mettre un peu le holà sur certaines pratiques ? Enfin voilà, ça nous posait pas mal de questions, on a pas mal de questions sur cette thématique-là, et donc on a décidé d'en faire un dossier de fond, et on consacre donc 40 pages à cette thématique dans le premier numéro. Donc c'est vraiment aussi cette chance qu'on a dans Sang-Froid, c'est de pouvoir vraiment être dans l'analyse et dans un espace très long. Avoir 40 pages pour traiter d'un dossier, je pense qu'il y a peu d'hebdo ou peu de quotidiens qui peuvent se targuer de pouvoir faire ça.
Il y a même des articles qui s'étendent sur 10 pages.
Ouais, tout à fait. Voilà, c'est vraiment cette chance qu'on a dans Sang-Froid, c'est d'avoir cet espace-là. Donc oui, il y a plusieurs articles, 3-4 articles même qui sont vraiment dans cette pagination-là de 10-12 pages. Comme je disais tout à l'heure aussi, c'est une volonté, voilà, d'aller au fond des choses. Par exemple, je prends un exemple concret, l'article sur la guerre secrète de la France en Algérie, qui est l'une de nos révélations d'un premier numéro de Sang-Froid. C'est un article où il faut avoir beaucoup de bases pour tout comprendre, essayer vraiment de pouvoir rentrer au fond des choses, bientôt comprendre les connexions, parce que c'est une période un petit peu trouble. Il y a des grandes tensions entre les deux pays.
Ça remonte dans les années 70.
Dans les années 70, oui, tout à fait. C'est un petit peu vieux. C'est au sortir donc de la guerre d'Algérie, où voilà, donc l'Algérie est indépendante. Et les services secrets français, accompagnés de d'autres membres internationaux comme la CIA, tout ça, voient un petit peu d'un mauvais œil ce qui se passe en Algérie, parce qu'il faut savoir que ce pays est un petit peu le centre de tous les mouvements protestataires et contestataires un petit peu de ces dernières années, dans les années 70. Et il y a une volonté d'essayer d'apaiser un petit peu la situation, de contrôler un petit peu tout ça. Et donc on a rencontré un ancien agent secret français qui a été mandaté pour être en Algérie et poser des bombes pour justement déstabiliser cet État algérien naissant. Et on raconte cette histoire dans Sang-Froid. On a eu la chance de le rencontrer quelques mois avant son décès. Et donc, il s'est confié. On a souvent envie, quand on est à l'approche de la mort, de soulager un petit peu sa conscience. Donc, il l'a peut-être aussi fait dans cette idée-là. Et donc, nous, forcément, après cette révélation qui a fait un petit peu l'effet d'une bombe, on s'est dit, il fallait qu'on vérifie, il faut qu'on enquête. Et donc, là, c'était encore aussi l'une des chances de Sang-Froid, c'est qu'on est dans un temps vraiment long. Là, en l'occurrence, en plus, c'était notre premier numéro. Donc, on avait finalement même plus que 3 mois pour enquêter. Donc on a recoupé nos sources, on a fait un vrai travail de journaliste, mais comme tout le monde fait, quoi, finalement.
Pour revenir aux révélations, est-ce que c'est pas un peu du gâchis ? Est-ce que vous n'avez pas du coup l'impression que plein de lecteurs passent à côté d'une information qui est d'intérêt public et d'intérêt général, sachant que c'est quand même une revue qui est spécialisée ?
On a beaucoup de médias qui nous ont repris là dans ce premier numéro. On a eu une très belle couverture médiatique sur ce premier numéro. Après, c'est forcément aussi le principe quand on est une revue qui se lance. Il faut qu'on en attire notre public, il faut qu'on se fasse connaître. Donc forcément, il y a des personnes qui passeront à côté de ce premier numéro. Mais on espère peut-être que dans le numéro 2, dans le numéro 3, s'ils connaissent Sang-Froid, ils auront de toute façon la possibilité sur le site internet, sur les réseaux sociaux, de commander ces anciens numéros et de peut-être faire connaître ces histoires. Mais voilà. Comme je l'ai dit, on a eu quand même une belle couverture médiatique, on a beaucoup essayé de faire parler aussi de ces sujets importants. Donc voilà, c'est vrai que nous, on est un trimestriel, donc c'est forcément un petit peu compliqué de vouloir faire des révélations, parce qu'on est sur quelque chose, une temporalité qui n'est pas la même que l'actualité quotidienne, l'actualité hebdomadaire, mais c'est un vrai pari qu'on a envie d'entreprendre. On part du principe de toute façon que les journalistes judiciaires dans la presse quotidienne, dans la presse nationale en général, même quand ils ont une révélation, une petite bombe en leur possession, ils prennent le temps de la vérifier, ils prennent le temps de recontacter, de recouper, donc c'est un temps qui finalement et long aussi. Et puis voilà, c'est un pari forcément, hein, donc ça peut réussir, on peut être un petit peu plus ric-rac dans certains numéros, mais en tout cas c'est vraiment quelque chose qu'on a envie de faire, et on a bon espoir pour l'instant de pouvoir le faire, même si les révélations ne sont pas que le cœur de sang-froid. On a par exemple d'autres révélations dans ce numéro, hein, comme les 11,7 milliards de dollars qui ont disparu en Irak après la chute de Saddam Hussein. On a aussi une autre affaire libyenne qui ne concerne pas le financement de la campagne de Nicolas Sarkozy. Ça c'est voilà, c'est nos grosses révélations de ce numéro-là, mais ce n'est pas que la volonté de sang-froid. C'est aussi allié à ces révélations d'autres articles plus judiciaires, plus magazines. Je pense notamment à notre sujet sur les détenus longue peine et la réinsertion des détenus longue peine, qui est une thématique qu'on a abordée sur 12-14 pages dans ce premier numéro. Donc voilà, c'est vraiment des questions en limite un petit peu philosophiques, finalement, et donc on avait aussi envie d'aborder cette thématique-là. Je pense à pas mal d'autres sujets aussi dans ce premier numéro qui sont dans cette veine-là, mais voilà, c'était peut-être l'exemple le plus parlant pour allier finalement ce côté révélation et ce côté plus magazine, plus temps long, qu'on a dans sang-froid.
Qu'est-ce qu'on trouve dans la deuxième partie de la revue sang-froid ?
Alors, donc, cette deuxième partie est consacrée au polar. Donc là, on est totalement dans la fiction. D'ailleurs, on a bien séparé les deux parties en deux parties distinctes avec un sommaire. Voilà, on sait qu'on rentre dans un univers différent, dans un univers fictionnel, parce qu'on avait un petit peu la crainte que le lecteur se dise « Mais sang-froid, c'est quoi ? C'est une revue qui mélange et les faits réels et la fiction, mais comment faire la part des choses ?» Voilà, donc on s'est dit « Autant faire une deuxième partie bien marquée, avec un sommaire propre. » Voilà, quelque chose où on ne peut pas se tromper sur le contenu de cette seconde partie. Donc c'est ce qu'on a fait, et donc cette partie polar s'articule autour de quatre grands axes. On a une nouvelle donc écrite par un auteur français pour l'instant. Franck Tillier a fait la nouvelle du premier numéro, où il nous raconte comment réaliser le meurtre parfait. Ça se passe pas vraiment comme il l'avait prévu. Je vous conseille de lire sang-froid pour voir pourquoi ça ne se passe pas comme ça. Voilà, c'était notre volonté d'avoir aussi donc des nouvelles d'auteurs de renom. On a Caril Ferret qui fera la nouvelle du numéro 2 notamment. Et on a aussi envie dans sang-froid donc de faire découvrir des auteurs. Et on a des critiques de livres, de polars qui vont sortir sur notre tranche trimestrielle où on est en librairie. Donc là, pour celle-là, entre mars et juin. Donc vraiment, c'est quatre parties nouvelles. Interview de fond avec un auteur, portrait et critique de livre.
Le tout premier numéro de Sang-Froid a été financé par les cofondateurs de la revue, Stéphane Damien Tissot, que vous venez d'entendre, Yannick Dehaye, ainsi que des mécènes. Les créateurs du magazine viennent de lancer une campagne de financement participatif sur Ulule. Vous pouvez y participer si vous le souhaitez. Pour suivre leur actualité, rendez-vous sur leur compte Twitter, @revuesangfroid, tout attaché. Le magazine est vendu en France en librairie, mais si vous habitez à l'étranger, vous pouvez commander les différents numéros via leur site web revuesangfroid.fr. Un numéro coûte 15 euros et c'est garanti sans publicité.
Merci Manon, c'est le printemps des médias dans l'atelier. À cette occasion, nous avons choisi d'explorer des publications jeunes et un peu moins jeunes qui ont fait le pari du papier cette semaine. Après sang-froid, nous allons maintenant à Paris, où nous restons en fait à Paris, pour découvrir 75. 75, c'est le code géographique de Paris. C'est également le nom d'une toute jeune publication, un magazine qui a été lancé en avril dernier. David Evin est son fondateur et directeur de publication. Il répond aux questions de Mathias Virilli.
Donc 75 est un nouveau mensuel parisien d'information locale. C'est le magazine des Curieux de Paris, un magazine qui existe depuis le 30 mars dernier en kiosque, et qui a pour parti pris de raconter la capitale et la vie, surtout dans la capitale, de manière approfondie, par des sujets plutôt longs, des enquêtes, des reportages, des portraits. On révolutionne pas le journalisme, par contre, on modifie la manière de faire du journalisme local, c'est-à-dire qu'on va vraiment sur le terrain, et on raconte ce que personne d'autre ne raconte, ces petites choses du quotidien, ces inconnus qu'on peut croiser tous les jours, mais on les connaît pas, et qui ont souvent des choses intéressantes à raconter. Ce travail-là, on l'avait déjà amorcé pendant 5 ans sur le 13 du mois, ce qui était un concept similaire uniquement sur le 13e arrondissement. Et en 5 ans, on a réussi à fédérer tous les mois des milliers de lecteurs, bah justement, qui avaient soif de découvrir leur ville autrement, pas uniquement par le prisme des bons plans sortis, ou des faits divers, ou de la politique locale, mais toujours avec ce parti pris de faire le boulot correctement, on n'est pas à la recherche du scoop à tout prix. Les autres le font déjà très bien, et face à Internet, de toute façon, la partie est perdue d'avance. Dans ce numéro 1, donc en kiosque depuis le 30 mars, On y trouve donc une quinzaine d'histoires différentes. On a le portrait, par exemple, qu'on a réussi à dénicher un ancien joueur du Paris Saint-Germain, qui était venu dans les années 90 à Paris, directement des favelas, et qui s'est complètement perdu au PSG. Donc ça, c'est une histoire, pour le coup, authentique, et qu'on a vraiment réussi à dénicher tout seul. C'est pas une histoire qui a été racontée ailleurs. On fait une enquête de fond sur 9 pages sur la cohabitation entre les communautés dans le 19e arrondissement, particulièrement dans le quartier des Buttes Chaumont, un quartier qui a fait couler beaucoup d'encre il y a quelques mois suite aux attentats, notamment aux frères Kouachi. Et donc on a été vraiment passé du temps, la journaliste Virginie Tauzin a passé plus d'un mois tous les jours sur place à rencontrer des dizaines d'acteurs différents. Ensuite, on a plein de choses. On a un entretien avec une philosophe pour nous expliquer ce que c'est que d'être parisien en 2016. On a des articles un peu plus légers sur la plus petite ligne de métro de Paris, sur les coulisses des geeks culinaires à Paris qui pullulent de plus en plus partout. Vraiment dans l'idée de toujours d'avoir de la diversité, d'avoir toutes les thématiques, tous les formats, parce que c'est pas uniquement un magazine de format long, c'est aussi un magazine avec des petites choses à grignoter qu'on a décidé de regrouper dans un cahier central qui s'appelle l'Entracte, dans lequel on a de la bande dessinée, du dessin, on a des chroniques judiciaires, des chroniques culturelles, de la fiction, de la poésie, plein de petites choses comme ça qui, mises bout à bout, décrivent, sont une sorte de photographie, de portrait de ce qu'est Paris et de ce qui, à mon sens, est aussi vraiment Paris et pas le Paris marque qu'on peut lire, voir et entendre un peu partout. C'est vraiment ce Paris du quotidien, en fait. Un peu banal, finalement, mais c'est dans la banalité qu'on arrive à trouver les plus beaux sujets, souvent.
Alors, je suis Virginie Tauzin, je suis journaliste pour 75 et rédactrice en chef adjointe. Ce qui nous intéresse en premier lieu, c'est qu'il y ait de l'humain et c'est qu'il y ait du terrain à faire. Alors, du terrain, on peut en faire partout, en réalité. On part du principe aussi que tout se raconte, en fait, à partir du moment où on accompagne, où on pose des questions. Voilà, tout se raconte, quoi, vraiment.
Et alors, comment est-ce que vous voulez trouver vos sujets, puisque c'est un magazine local, donc il n'y a pas, j'imagine, de couverture médiatique avant la vôtre. Comment est-ce que vous allez dénicher vos sujets ?
Alors ça, c'est sûr que c'est pas sur Internet qu'on trouve nos sujets, c'est pas en tapant des mots-clés comme ça qu'on... Voilà, on lit pas non plus Le Parisien. On fait beaucoup de terrain. En réalité, on passe pas une seule journée au bureau, sauf quand on rédige à la fin, mais le fait de faire du terrain, de faire un reportage sur tel sujet, va aussi nous ouvrir des portes pour un autre sujet. On va aussi entendre parler de quelque chose où, voilà, c'est en étant en contact des gens qu'on apprend telle ou telle histoire qui peut se dérouler à deux rues de là. Et même si on laisse reposer pendant des mois et des mois, on note ça quelque part et on y reviendra à un moment donné. C'est pour ça qu'on a des listes et des listes de sujets assez énormes parce que, voilà, pendant 5 ans, on a labouré le terrain dans le 13e. Pendant 5 ans, on a rencontré des gens tout le temps. On a un carnet d'adresses assez important, du coup, sur ce territoire-là. Voilà, c'est en connaissant un territoire aussi qu'on entend parler de telle histoire où on se dit « Ah ben ça se passe dans le 13e, alors pourquoi il n'y aurait peut-être pas la même chose dans le 17e arrondissement ?» Après, on sait que passer de l'ultra-local au local parisien, ça va forcément peut-être déplaire à certains habitants du 13e qui ne vont pas nous suivre. Ça, c'est fort possible, parce que ce n'est pas la même démarche. On est conscient que les personnes qu'on va toucher seront âgées d'au moins 35-40 ans. Que c'est des personnes qui sont installées dans leur ville. Les gens qui aiment leur quartier sont des gens qui y sont installés. Et il y en a plein, en fait. Il y en a plein. Donc, voilà, le 13 du mois, ça... On a testé ce modèle-là et maintenant on espère vraiment qu'à Paris ce sera la même chose et on en est assez convaincus en fait.
Le premier numéro de 75 s'est vendu à 10 000 exemplaires et le magazine compte aujourd'hui plus de 1 000 abonnés. Au sommaire du deuxième numéro, paru il y a quelques jours, une série de portraits de Parisiens anonymes mobilisés pour surmonter le traumatisme des attentats. Un entretien avec le musicien punk Didier Vampas qui raconte son Paris après avoir travaillé pendant 30 ans dans le métro parisien, mais aussi une enquête sur l'univers compétitif des supermarchés de proximité, les supérettes. Le tout en une centaine de pages avec un travail graphique qui fait parfois penser au bimensuel Society, autre succès récent de la presse papier. Courte pause dans l'atelier, on se retrouve dans un instant pour découvrir, redécouvrir, parler du 1.
L'atelier des médias.
Atelier des médias, nous continuons cette semaine notre série Printemps des médias. Malgré les crises, les mutations, les difficultés, malgré le numérique, la robotisation, l'internet, malgré tout cela, ou peut-être grâce à tout cela, chaque mois, chaque semaine, chaque jour pratiquement, un nouveau projet média est lancé. Aujourd'hui, nous partageons avec vous trois de nos découvertes. Enfin, découverte s'applique plus particulièrement aux deux premières publications évoquées avant la pause. Celle qui va nous intéresser maintenant vient de souffler ses deux bougies. Le 1 à 2 ans, c'est un reportage de Mathias Virilli.
L'Atelier des médias, la web émission participative.
RFI.
Ziad Malouf, Simon de Creuse.
Et vous.
Vous êtes au 1 avec Eric Fotorino, cofondateur de l'hebdomadaire Le 1. Le 1, c'est un journal qui est un objet de presse qui sort chaque semaine, un hebdomadaire, et qui a comme particularité de se déplier, c'est-à-dire que c'est trois formats en un seul. Vous avez un format comme un magazine normal. Quand vous l'ouvrez, vous avez l'équivalent d'un journal comme un tabloïd. Et puis quand vous l'ouvrez encore, vous avez une grande feuille de papier très large qui permet d'accueillir à la fois de longs textes, des œuvres d'art reproduites ou des cartes de géopolitique.
Alors justement sur ce format, donc c'est un format A4 qui se déplie jusqu'à un format A1, donc ce que vous appelez le poster. Pourquoi ce choix du poster et voilà de ce format dépliable?
Oui, il y a plusieurs raisons. D'une part, le 1 a pour particularité de traiter chaque semaine d'un grand sujet lié à l'actualité et de le traiter à la fois avec des écrivains, des poètes, des artistes et puis aussi avec des chercheurs, des savants dans tous les domaines. D'une certaine manière, le pliage permet de scander la lecture, de tracer un chemin de lecture pour le lecteur qui commence par l'intime, d'une certaine manière, la poésie, la littérature, les chroniques, qui continue dans un format plus grand par les analyses de toutes sortes, que ce soit philosophie, que ce soit des grands entretiens, que ce soit des repères historiques dessinés par un artiste, Jörn Gerner. Et puis quand on déplie encore une nouvelle fois, eh bien, on a accès à un format unique dans la presse qui permet de voir les choses plus grand. Et une carte, quand vous la voyez plus grand, vous comprenez mieux la situation. Une œuvre d'art, quand vous la voyez en grand, elle vous touche plus. Et un long texte, c'est quelque chose qui vous permet d'aller tout au fond des choses. Donc voilà, la manière de scander la lecture se prête bien au pliage, ou plutôt l'inverse, le pliage se prête bien à la manière de scander la lecture.
Regardez-les, ces hommes et ces femmes qui marchent dans la nuit. Ils avancent en colonne sur une route qui leur esquinte la vie. Ils ont le dos voûté par la peur d'être pris. Et dans leur tête, toujours, le brouhaha des pays incendiés. Ils n'ont pas mis encore assez de distance entre eux et la terreur. Ils entendent encore les coups frappés à leur porte, se souviennent des sursauts dans la nuit, regardez-les. Honte à ceux qui ne voient que guenilles, regardez bien, ils portent la lumière de ceux qui luttent pour leur vie. Et les dieux, s'il en existe encore, les habitent. Alors, dans la nuit, d'un coup, il apparaît que nous avons de la chance si c'est vers nous qu'ils avancent. La colonne s'approche, et ce qu'elle désigne en silence, c'est l'endroit où la vie vaut d'être vécue. Il y a des mots que nous apprendrons de leur bouche, des joies que nous trouverons dans leurs yeux. Regardez-les. Ils ne nous prennent rien. Lorsqu'ils ouvrent les mains, ce n'est pas pour supplier, c'est pour nous offrir le rêve d'Europe que nous avons oublié. Extrait du poème sur les migrants, Regardez-les, écrit par Laurent Godet et publié dans le 1 du 9 septembre 2015, intitulé « Migrants, que faire ?»
Les mêmes rues à réapprendre, celles disparues qu'il faudra rendre. Un demi-tour en ligne droite, quand le cœur lourd cherche la date. Qu'est-ce que le temps ? Peut-être rien. On lève le camp, on se souvient. Je reviens, et ces vieux airs dans mes poumons, ou que sifflèrent mes compagnons. Le sang revient, cogner mes tempes, on se sent bien dans nos vieux temples. Et mon sourire m'avait suivi, y a plus de pire, Je suis ravi. Je revis. Nouvelle adresse. Un autre amour. Avec l'ivresse des nouveaux jours. Mêler l'espoir et l'aventure aux vieilles histoires qu'ont la peau dure. Mon cœur qui bat sous une enseigne. Je regarde la pluie, rien ne saigne. Je re-aime, y a plus d'avant. Je sors de l'œuf, c'est quand maintenant. Je suis tout neuf, je ne sais rien. Tout me rétonne, je me sens bien. À qui j'en donne ces rendez-vous, là où j'étais, si c'est chez nous, je vous reconnais. Je renais.
Je suis avec Eric Vottorino. Eric Vottorino, vous êtes journaliste, directeur de la publication et cofondateur du 1. Le 1 se déplie et se lit en trois temps. Le premier temps, c'est celui de l'émotion. Donc, c'est par exemple La Voix du Poète, qui est un choix d'un poème qui est commenté. Le deuxième temps, c'est celui de la réflexion, avec des repères, avec une chronologie illustrée, un grand entretien que vous menez d'ailleurs assez régulièrement. Et le troisième temps, c'est celui que vous appelez de l'évasion, avec des points de vue, des reportages. Pourquoi est-ce que vous avez choisi cette triptyque-là de l'émotion, de la réflexion et de l'évasion?
On est toujours un peu estropié si on n'a qu'une réaction émotive à un sujet ou qu'une réaction rationnelle. Il faut que le rationnel et l'émotionnel se rejoignent, se parlent, en écho, pour pouvoir justement approcher au plus près la réalité qu'on veut décrire. Donc c'est ça qui fait que ces trois temps, ces trois moments du savoir permettent au lecteur de structurer sa pensée, de percevoir que chaque sujet, finalement, est porté par différentes sensibilités. Un poème de Laurent Godet sur les migrants, ça nous fait réfléchir autant qu'un entretien avec un responsable de Médecins Sans Frontières sur les camps. Donc tout ça fait que le savoir, ce sont des savoirs. C'est Edgar Morin qui dit que quand on construit des savoirs en silos, on crée de l'ignorance. Mais nous, on essaie de faire des ponts entre chacun des silos, de les relier, pour créer vraiment de la connaissance. Nous, on prétend ne pas être un journal exhaustif. On essaie, je dis souvent, ce n'est pas un journal d'information, c'est un journal d'inspiration, d'inspirer nos lecteurs, quel que soit le thème, même s'ils ne connaissent rien à ce sujet. Eh bien, le contrat, la promesse de lecture, c'est que lorsqu'ils auront passé trois quarts d'heure, 50 minutes à le lire, ils le refermeront, ils le replieront avec beaucoup d'idées, mais aussi ils auront lu des textes de littérature, ils auront lu de la poésie, par exemple sur les migrants. Récemment, on a publié un texte de Marguerite Yourcenar à Lampedusa. On avait l'impression qu'elle était à Lampedusa la semaine dernière. Autrement dit, les grands textes sont toujours d'actualité. Et ce qu'on veut, c'est que les lecteurs, dans une geste un peu ludique aussi, parce que déplié, il y a quelque chose, on est dans des sociétés où les esprits se ferment, se racornissent, et nous, d'une certaine manière, on propose d'ouvrir toujours plus, d'ouvrir l'esprit comme on ouvre le journal. Et c'est ce parcours-là que l'on propose chaque semaine, avec des agencements un petit peu différents dans le poster, selon en effet qu'on est face à une carte de géopolitique, selon qu'on est face à une œuvre d'art ou à un grand reportage, comme a fait récemment Laurent Godet à Calais.
Alors justement, vous parlez de déplier un journal. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de lancer un journal à l'ère où beaucoup d'initiatives médiatiques se lancent en fait en ligne, sur le numérique? Pourquoi ce choix du papier?
Et on a considéré que le papier n'était pas un support périmé ou archaïque, au contraire, mais que ce qui faisait sa modernité, c'était ce qu'on imprimait dessus et la manière dont on l'imprimait. C'était l'offre éditoriale que l'on pouvait lui faire supporter. Et à partir de là, c'est vrai que dans un moment où on accélère énormément, où on va plus en surface qu'en profondeur, nous, notre proposition, c'est de ralentir pour réfléchir. C'est aussi de redonner de la mémoire, de redonner du contexte. Très souvent, on considère que les choses sont nouvelles parce qu'on a oublié. Mais souvent, elles ne se posent pas complètement dans un caractère nouveau. C'est simplement qu'il faut leur redonner justement cette historicité, cette épaisseur. Et nous, on a considéré que le support papier, mais pas n'importe quel papier, ce pliage, pouvait faire d'un journal un objet qui résiste à l'éphémère et qui introduit du temps, de la durée. D'ailleurs, on voit que beaucoup de lecteurs du 1 ne jettent pas le 1 quand ils l'ont lu, ils le gardent, ils le collectionnent. Et cet effet de collection, de conservation, c'est une manière, un antidote parmi d'autres, à la façon de résister à cette société de l'accélération, de la vitesse, où on oublie finalement le soir ce qu'on a lu le matin.
Vous dites sur votre site que le 1 se lit en moins d'une heure. Pourquoi ?
Ça, c'est important dans la mesure où on considère que les lecteurs du 1 lisent déjà d'autres publications. Et dans notre société moderne, ce qui est le plus rare pour chacun d'entre nous, c'est le temps. Et nous, on essaie de tenir les deux bouts de la contrainte, c'est-à-dire d'aller en profondeur plutôt qu'en surface, mais d'aller rapidement en profondeur, autrement dit, de permettre à un lecteur qui ne dispose pas d'un temps infini, lorsqu'il rentre dans l'univers du 1, dans un temps réduit, être tout de suite dans l'essentiel et non pas dans une forme d'insignifiance ou de mode ou de bégaiement général de l'actualité. Donc c'est se rapprocher ces pôles contraires, c'est-à-dire la profondeur et la vitesse.
Comment est-ce que vous arrivez à concilier cette exigence de s'ancrer dans l'actualité avec cette volonté de prendre du recul ?
Bien, à chaque fois qu'on traite un thème lié à l'actualité, et on l'a fait beaucoup ces temps derniers, ces mois derniers, que ce soit autour des migrants, autour du terrorisme, autour des réinventions de la démocratie ou du travail, à chaque fois on attrape le sujet par ce qu'il a de plus structurant. Et dès lors qu'on rentre dans des analyses de philosophes, d'historiens, d'économistes, d'écrivains, on s'affranchit du temps trop court et on commence à proposer des clés de lecture qui permettent au lecteur de se forger ses propres opinions. C'est-à-dire que nous, on essaie d'avoir les bonnes pinces, des bons outils pour rattraper la réalité. Et ça nous permet aussitôt de nous affranchir de tout ce qu'il y a d'un peu de dictatorial dans l'actualité. C'est-à-dire, ça change tout le temps, la cible bouge toujours. Et finalement, on reste dans l'écume des choses. Donc, le sujet qu'on traite est l'actualité. Mais la manière dont on le traite, ce sont des outils qui sont justement plutôt intemporels et qui sont des marqueurs du temps long. Quand avec Daniel Cohen on parle du chômage, on parle du plein emploi des années 60 et on le relativise avec le chômage d'aujourd'hui. Donc on n'est pas vraiment le nez collé sur la courbe du chômage.
Quand on lit le 1, on se rend compte très très vite que la majorité des contributions proviennent du monde universitaire ou du monde intellectuel, donc beaucoup d'écrivains, beaucoup de chercheurs en économie, en sciences politiques. Est-ce qu'au final, les points de vue qui sont avancés, les tribunes que vous offrez justement à ce monde universitaire, ça ne fait pas du 1 un journal d'opinion ?
Bah, d'opinion au pluriel alors. C'est un journal où effectivement toutes les opinions peuvent se croiser, se rencontrer, se contredire, mais plutôt se compléter. C'est-à-dire qu'effectivement, je crois que mettre le mot vérité au singulier est une erreur même de réflexion. La vérité a toujours plusieurs visages, elle peut être envisagée différemment selon les disciplines dans lesquelles on a investi. Donc ce n'est pas un journal d'opinion au sens où il défendrait une opinion contre les autres. C'est un journal d'opinion au pluriel, dans le sens où il considère que chaque sujet traité doit s'enrichir, être enrichi des différents points de vue dont dispose justement mettre à égalité d'une certaine manière, sur un même pied, la contribution d'un auteur, d'un écrivain, d'un poète, donc du monde de la fiction, et qui éclaire le réel aussi bien, mais différemment, qu'un chercheur qui a passé beaucoup d'années à étudier soit l'électorat, soit la population active ou d'autres disciplines.
Si on regarde les sujets que vous traitez, donc sur les quelques mois qui viennent de passer, vous avez des sujets très génériques, très thématiques, donc par exemple la politique, la culture, l'agriculture, le chômage dont vous avez parlé, les médias aussi, enfin avec le traitement de l'information. Vous avez aussi des sujets internationaux, donc vous avez fait un sujet sur l'Arabie Saoudite, un sur la Chine et un sur la francophonie. Voilà, vous avez aussi des sujets d'actualité politique comme la jungle de Calais ou les primaires ou voilà la sécurité. Comment est-ce que vous choisissez vos sujets ? Comme vous avez un seul sujet par semaine, comment est-ce que vous effectuez ce choix ?
Oui, c'est important le choix et le moment où on va traiter d'un sujet plutôt que d'un autre. En fait, on s'est rendu compte à l'expérience, puisqu'on a publié maintenant 100 et même 100, un peu plus de 100 numéros, que ce qui est important, c'est de choisir des thèmes qui structurent vraiment l'espace public. C'est-à-dire que quand on les traite, il n'y a pas vraiment de surprise sur le sujet en soi. que la surprise vienne de la manière dont il est traité. Et qu'à partir de là, si on regarde une année de 1, par exemple, c'est à peu près 50 numéros, le lecteur puisse se dire que on lui a donné une explication du monde tel qu'il est aujourd'hui, aussi bien dans la dimension nationale que la dimension internationale, tout ce qui a vraiment interrogé notre esprit, l'opinion, et qu'est-ce qui a vraiment changé, qu'est-ce qui change en profondeur. On a consacré 4 ou 5 numéros aux évolutions du monde du travail, par exemple. Bien, c'est une manière de dire qu'on sait bien que parmi les grandes mutations anthropologiques de nos sociétés modernes, eh bien, il y a le monde du travail, comme il y a aussi celui de la santé, comme il y a celui des transports, etc., l'écologie aussi. Donc ces thèmes-là, ils sont récurrents, et après, on arbitre en fonction de ce qui est, et ça c'est justement notre sens un peu de journaliste, de ce qui nous paraît être ce que les lecteurs veulent lire dans un moment donné. Alors évidemment, on peut se tromper, mais en tout cas, on essaie toujours de précéder une attente qui est plus ou moins exprimée, qui n'est pas forcément exprimée de façon très claire, mais en tout cas que l'on aperçoit et qu'on essaie de satisfaire.
Oui, parce qu'au final, quand on regarde vos sujets, il y en a beaucoup qui ont été traités de manière abondante dans les médias, et quand on regarde votre site, vous affirmez pourtant vouloir sortir des sentiers battus et être impertinent.
Oui, l'impertinence, disons qu'il y a deux pôles. Il y a d'abord un pôle pédagogique, c'est-à-dire que, et ça c'est une de nos fiertés, c'est que le 1 est lu énormément par des jeunes, par des lycéens, par des étudiants, par des profs qui l'utilisent comme support de cours, que ce soit des professeurs dans l'enseignement classique, mais aussi ce qu'on appelle les écoles de la deuxième chance, où sont des élèves qui justement ont eu un parcours scolaire difficile et qui reprennent contact avec le monde du savoir à travers le 1. Donc pour nous, ça c'est très important, cette pédagogie. Et l'impertinence, c'est en fait, nous, ce qu'on dit à longueur, j'allais dire, de page, c'est développer votre esprit critique, accepter l'idée que précisément il n'y a jamais une réponse pour tout, une fois pour toutes. Il y a des réponses, et celles-là se modulent selon les époques, selon les lieux, et qu'on ne peut pas ressortir avec une vérité toute casquée. Et donc, moi je dirais que le 1 est un journal de questionnement. Et dès lors que vous questionnez, y compris vos propres réponses, forcément vous êtes dans une forme d'impertinence ou d'insolence, mais ça, c'est pas dans le ton. On n'a pas un ton ricaneur, mais c'est plutôt l'idée que on donne des éléments pour précisément exercer son esprit critique.
Notre époque n'aime ni l'intelligence ni la raison. Elle chérit le slogan et le lieu commun. Elle n'apprécie pas du tout l'analyse et la réflexion. Elle adore l'obéissance et la soumission. Elle refuse la généalogie et la causalité. Elle se vautre dans la pensée magique et l'incantation compassionnelle. Nous vivrons avec le terrorisme tant que nous produirons les causes qui le déterminent. Chercher les causes n'est pas excuser, mais comprendre. Ça n'est pas légitimer, mais faire acte d'intelligence. Quelles voix se font entendre pour la paix? Qui pense en fonction de cet objectif? Qui se donne les moyens d'envisager la sortie de la guerre sans se soumettre ou se démettre? Parce que je suis de gauche, je suis pacifiste. C'est-à-dire que je préfère la raison à la testostérone. Tant que nous nous soumettrons à la logique des gonades, nous aurons la peur puis le sang puis la peur. La vendetta n'exige pas plus que le cerveau d'un enfant de 6 ans. Extrait tiré de la tribune « La logique des gonades », écrit par Michel Onfray dans le numéro du 1, publié le 6 avril 2016, et consacré aux attentats avec comme question principale « Comment vivre avec ?»
Rejoignez la communauté de l'Atelier des médias sur Internet.
http://atelier.rfi.fr
Alors vous avez parlé des jeunes et de votre lectorat jeune dans les lycées, dans les collèges. J'ai vu que vous étiez diffusé dans les lycées. Comment est-ce que vous expliquez ce que les jeunes lisent le 1 ? On aurait tendance à penser qu'il s'adresse plutôt à un lectorat plus âgé, peut-être plus mature intellectuellement parlant.
Il y a cette perception par beaucoup de jeunes que le 1 peut les aider à faire un chemin de connaissance qui ne soit pas rébarbatif, qui ne soit pas trop long. Encore une fois, ils ne sont pas assommés, ils n'ont pas un livre de 200 pages à lire. Ils ont finalement une feuille de papier pliée en 3. Quand ils ont lu le 1 sur un sujet, ils peuvent en parler parce que précisément, ils ont là une proposition qui est limitée dans l'espace et le temps et qui leur permet justement d'avoir lu des choses qu'ils n'ont peut-être pas lues ailleurs parce qu'on ressort des textes intemporels, on va ressortir du Victor Hugo ou des poètes anciens, y compris des Grecs, etc. Et tout d'un coup, il y a une inspiration qui va arriver et qui va permettre de regarder ce sujet que tout le monde traite autrement.
Alors vous avez évoqué Victor Hugo, c'est le poème qui a été choisi pour votre 100e numéro, donc sur le thème « Culture, le grand sacrifice ». Et la question que vous posez, c'est de savoir si il n'y a pas une impasse qui est faite par le politique sur la question culturelle.
Ça arrive dans une époque où les moins cultivés, les moins respectueux de la dimension culturelle d'une nation, ce sont les politiques. Et c'est quelque chose qui est très bien analysé par Jérôme Clément dans un entretien qu'il nous a accordé. On voit bien effectivement que au-delà même des crédits alloués, qui sont plutôt en baisse, il y a cette idée que finalement la culture, c'est un critère économique, un paramètre économique, et que s'il est rentable, ça va, mais que s'il n'est pas rentable, il faut plutôt le minorer. Or, considérer que la culture doit être soumise à des critères de rentabilité, comme il l'explique, comme la pêche en haute mer ou toute discipline économique, ça paraît absurde. Et pourtant, cet absurde-là, on y est tous aujourd'hui, parce qu'on voit bien que on ne mesure plus la valeur d'une création culturelle qu'à la question de savoir si elle remplit des salles, si il y a une affluence, si elle vend, si elle crée des emplois, etc. Donc on voit bien qu'on a un peu détourné la culture. La culture n'existe plus en soi, elle n'existe que comme contributeur à l'économie.
Pour ce numéro un peu spécial, vous consacrez un feuillet supplémentaire en fait à Gérard Fromanger, qui est donc un peintre figuratif, qui est actuellement exposé au Centre Pompidou à Paris, donc qui est le musée d'art moderne de Paris. Pourquoi avoir choisi Gérard Fromanger ?
C'est vraiment un peintre de l'actualité, Fromanger. Vous savez, c'est le grand artiste qui, en mai 68, a fabriqué des dizaines et des dizaines d'affiches qui allaient après dans les rues pendant que la police était aux Beaux-Arts. Ben, les Beaux-Arts étaient dans la rue grâce à Fromanger. Fromanger, il a capté cet air du temps, notamment avec ce drapeau bleu, blanc, rouge qu'il a peint en mai 68 et que Jean-Luc Godard a filmé, qui a été un des emblèmes de mai 68, où on voit le rouge Fromanger, ce rouge qui coule et qui traverse le blanc, qui traverse le bleu. Et évidemment, ce rouge révolutionnaire devient aujourd'hui le rouge de la violence. Et c'était, nous a-t-il semblé, un lien presque évident entre précisément cette période de la fin des années 60 et puis aujourd'hui avec les attentats. Eh bien, le rouge Fromanger a déteint d'une certaine manière, a pris une autre dimension. Pour nous, c'est devenu presque une évidence qu'il fallait se rapprocher de lui.
Vous avez annoncé récemment être à l'équilibre. Comment est-ce que le 1, qui se vend une fois par semaine au prix unitaire de 2,80€ et à l'abonnement de 9€ par mois, tient et comment est-ce qu'il est à l'équilibre aujourd'hui ?
Le 1 n'existe que parce qu'il a des lecteurs. Et la contrainte qu'on s'est donnée, c'était de ne vivre que de ce que nous donnaient nos lecteurs, dans la mesure où nous refaisons toute publicité dans les colonnes du 1, donc il n'est pas financé, je dis souvent c'est 45 grammes, mais pas un gramme de publicité. Il est à l'équilibre parce que les ventes au numéro, que ce soit par le kiosque ou par l'abonnement, atteignent en moyenne plus de 28 000 exemplaires chaque semaine, donc plus près de 29 000 maintenant que de 28 000. Ce qui est important de voir, c'est que maintenant, on a un noyau dur, j'allais dire, de lecteurs qui nous achètent, quel que soit le sujet. Et ça, c'est au moins 10 000 acheteurs chaque semaine dans le kiosque. Donc ça veut dire que ça vous amène une sécurité. Quand vous avez 10 000 lecteurs qui viendront, quel que soit le sujet, plus 14 000 abonnés, vous avez déjà un socle important qui vous permet justement d'être un peu hors d'eau et hors de danger. Par ailleurs, on a conforté le modèle économique du 1 avec des hors-séries. On en a consacré au climat, on en a consacré à Verdun. Et donc ces hors-séries ont toujours été bénéficiaires, donc ils ont été très vertueux pour notre petite économie. Et depuis maintenant un peu plus de 3 mois, nous avons développé les livres du 1, qu'on appelle les indispensables, qui sont des petits livres de moins de 100 pages, qui rassemblent les textes les plus éclairants du 1 sur un sujet. Et donc ces hors-série plus ces livres nous permettent, avec les ventes qui ne cessent d'augmenter du 1 et notamment les abonnements, puisqu'on a passé aujourd'hui les 14 000 abonnés, tous ces indicateurs vont dans le même sens pour nous permettre d'envisager l'avenir assez sereinement, puisque effectivement on voit bien qu'on a suscité une attente qui aujourd'hui place le 1 dans le paysage vraiment des journaux qui apportent quelque chose de neuf aux lecteurs, au public.
Le 1 à 2 ans, c'était un reportage de Mathias Virilli. Merci à toutes les équipes du 1 et à toutes les équipes de journalistes qui ont accepté de répondre à nos questions. C'était l'atelier des médias spécial printemps, un atelier signé Manon Mella, Mathias Virilli, Simon De Creuse. En coulisses, il y avait aussi Camille Deloche et votre serviteur Ziad Malouf. Salut à toutes nos blogueuses, tous nos blogueurs. En arabe, ils sont sur Arablog, en français sur Mondoblog. Pour les parisiennes et parisiens, l'atelier vous donne rendez-vous ce jeudi 12 mai à Numa de 19h à 22h pour le printemps des médias. Bravo d'ailleurs à l'équipe organisatrice de cet événement, le printemps des médias, et particulièrement à Clara. Salut à toutes et à tous. There's something happening here. What it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there telling me I got to beware. I think it's time we stop. Children, what's that sound? Everybody look what's going down.